chronique d'un autostoppeur. Mon tour du monde en 15 fois 15 minutes. Une émission mensuelle dépaysante proposée par Jérémy Fischer, écrivain biographe. Il vous emmène dans son périple de 15 mois, réalisé de février 2019 à mai 2020.
Salut les routards et bienvenue dans ce 10e épisode. Aujourd'hui, nous allons lever le pouce sur une distance de 2700 km du nord du Chili à l'est de l'Argentine. Dans la première partie de l'émission, nous allons traverser le désert d'Atacama. Dans la seconde, nous tenterons d'atteindre Buenos Aires. En cette mi-novembre 2019, je suis le seul piéton à passer la frontière entre le Pérou et le Chili. Après les contrôles d'usage, je me positionne sur la route qui mène à Arica, la plus grande ville au nord du pays. Rapidement, je monte dans la voiture d'Andrea et Mauricio. Ils rentrent chez eux à Arica. J'apprends que la situation sociale du Chili est tout aussi tendue qu'en Bolivie, où j'ai renoncé à me rendre la semaine précédente. L'un des centres commerciaux d'Arica a été incendié la nuit dernière, occasionnant la mort d'une personne. Malgré ce drame, le couple se montre rassurant. Les manifestations et échauffourées ont lieu en soirée, les journées sont plutôt tranquilles. L'après-midi touchant presque à sa fin, je demande à mes bienfaiteurs si je peux dormir sous la tente dans leur jardin. Ils acceptent avec sympathie. Chez eux, je rencontre Rosa, la maman d'Andrea, âgée de 79 ans, et Agustin, leur petit-fils de 4 ans. L'enfant est autiste. Je sors mes balles de jonglage et on s'adopte mutuellement. La famille m'invite à dîner et nous poursuivons nos échanges pour faire connaissance. Cela fait 2 mois que je parcours des terres hispanophones, je commence à avoir quelques repères linguistiques. La nuit tombée, Mauricio et Andrea me proposent de dormir chez eux et m'installent au salon. C'est mon tout premier jour au Chili et j'ai déjà la chance de bénéficier de l'hospitalité généreuse des habitants. Demain, Mauricio se fait guide et m'emmène en ville. Surnommée la ville de l'éternel printemps, Arica est très aride. À titre d'exemple, il n'y a pas eu une seule goutte de pluie durant 173 mois entre 1903 et 1918. À ma demande, nous visitons le site de la bataille du 7 juin 1880 durant la guerre du Pacifique contre le Pérou et la Bolivie. À cette époque, ces deux pays détiennent les territoires du nord du Chili actuel, permettant à la Bolivie d'avoir un accès à l'océan. Les Péruviens perdent cette bataille, mais l'un d'eux s'illustre héroïquement. Le colonel Alfonso Ugarte, 32 ans, voyant la bataille perdue, lance son cheval au galop et saute d'une falaise de 139 mètres, emportant dans sa chute fatale le drapeau national afin d'éviter qu'il ne soit pris par l'ennemi. Voilà un geste radical, non dénué de panache. Je découvre aussi un musée qui conserve les vestiges archéologiques des Chinchorros, un peuple de chasseurs-cueilleurs sédentarisés. Ils sont connus pour leurs rites funéraires et, en particulier, pour leurs momies vieilles de 7000 ans. Ces dernières sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis l'an dernier. Toujours logé chez mes nouveaux amis, je fais une excursion de quelques jours vers le lac de Chungara. Évidemment, je lève le pouce pour atteindre ce site naturel de la cordillère des Andes. Au cours de la journée, je rencontre une famille française en voyage au long cours. Ensemble, on visite le village de Parinacota. Il possède une église du XVIIe siècle avec de jolies peintures murales témoignant du style baroque andin. On y trouve une petite table attachée au mur. Selon la légende, elle avait tendance à se déplacer à l'aide de ses 4 pieds. Elle s'arrêtait alors devant une maison du village dont le propriétaire ne tardait pas à décéder. On comprend pourquoi les habitants ont fini par entraver cette table tueuse dans l'église. Reprenant la route, nous pouvons observer les vigognes et alpagas qui peuplent la toundra environnante. Le magnifique lac de Chungara se dévoile à nous à 4300 mètres d'altitude, avec en arrière-plan 2 volcans enneigés de plus de 6000 mètres. Ayant quitté mes sympathiques compatriotes, je repars vers Arica grâce au concours d'un chauffeur routier. En chemin, je marque une étape au terme de Jurassie. Imaginez des bassins en plein air, à 4000 mètres d'altitude, irrigués par des sources chaudes volcaniques allant de 40 à 50 degrés. Un vrai bonheur. Le soir même, j'installe ma tente sur un terrain de foot en terre battue, à l'entrée de la ville de Poutré. Le jour suivant, j'ai la surprise d'embarquer dans le minibus de trois couples originaires de la région Rhône-Alpes. Le monde est petit. Je retrouve mes amis à Arica et participe à la fête d'anniversaire du petit Agustin. Quand l'heure du départ arrive, je remercie Mauricio et Andrea pour leur hospitalité. Ils me disent que leur maison est la mienne. Je peux revenir quand je veux. On se prend dans les bras. J'ai une pointe de tristesse en quittant ceux que je considère désormais comme ma famille chilienne. Je parcours ensuite 700 km dans le désert d'Atacama, l'une des régions les plus arides du monde. Je dors sous la tente, à proximité de la route que je compte reprendre le lendemain. Je fais une dizaine de covoiturages avec des Chiliens, mais aussi une Américaine et un Pakistanais francophone. L'un de mes chauffeurs s'appelle Christian. N'étant pas pressé, il me propose de me faire découvrir des lieux peu connus sur le parcours. Ravi de cette opportunité, j'accepte. On marque ainsi un arrêt dans une ville fantôme au milieu du désert. À la fin du 19e siècle, on y produisait du salpêtre. Christian m'amène aussi à un marais salant, le Salar de Yamara. Cette excursion tombe à pic car j'ai dû renoncer à voir le fameux Salar d'Uyuni en Bolivie. Je suis subjugué par cette oasis blanche au milieu du désert. Nous sommes seuls, pas un touriste à l'horizon. Plus loin, Christiane réalise une autre sortie de route pour me montrer un barrage sur une rivière isolée. On y produisait l'électricité pour les fabriques de salpêtre. Au-delà de la joie de découvrir ces lieux figés dans le temps, je ressens une forte reconnaissance envers mon guide. Être capable d'offrir spontanément de son temps à un étranger de passage représente à mes yeux l'une des plus belles qualités humaines. Je passe rapidement par San Pedro de Atacama. Cette ville est réputée pour ses alentours, volcans, lagunes, geysers, canyons, mais également pour avoir l'un des ciels les plus purs de la planète. Les faibles quantités d'humidité et concentration d'oxygène dans l'atmosphère favorisent l'observation des astres célestes. Je trouve ce lieu un peu trop touristique à mon goût et décide de repartir vers la frontière pour aller en Argentine. Je ne suis pas le seul autostoppeur à me positionner à la sortie de la ville. Je rencontre David et un couple, Barbara et Sébastien. Tous les trois sont argentins et reviennent au pays après plusieurs mois de vadrouille dans le nord de l'Amérique latine. Je fais connaissance avec chacun d'entre eux et me place en dernier. Il y a une règle tacite de bienséance parmi les amateurs d'autostop. S'il y a déjà des autostoppeurs à l'endroit où l'on souhaite lever le pouce, on se place après eux pour leur laisser la priorité. Malgré la situation, je reste confiant. Malheureusement, il y a peu de trafic. Les rares véhicules qui passent sont des bus remplis de touristes qui ont payé leur place. Peu de chance pour que l'un d'eux s'arrête pour nous covoiturer à la frontière. En fin de journée, on finit par dormir tous les quatre dans nos tentes respectives. C'est ma seconde nuit dans le désert et j'apprécie de partager ce campement improvisé avec de nouveaux amis.
Je suis
nouveauté Omid Hope du groupe Sivery Corporation. Vous êtes avec Jérémy Fischer dans Chronique d'un autostoppeur, mon tour du monde en 15 x 15 minutes. Dans la seconde partie de l'émission, nous allons passer la frontière et traverser l'Argentine jusqu'à Buenos Aires. Après cette nuit dans le désert d'Atacama, la chance nous sourit. Barbara sollicite l'aide d'un chauffeur routier dont le véhicule est stationné à côté. Il tracte une dizaine de voitures d'occasion à revendre en Argentine. Le chauffeur, originaire du Paraguay, accepte de nous donner un coup de pouce. On peut monter dans l'une des voitures remorquées. C'est l'un de mes trajets les plus originaux de ma carrière d'autostoppeur. À 4, dans une voiture à l'arrêt, sur une remorque pleine de véhicules, tractée par un camion. Nous passons la frontière et arrivons à Purmamarca dans la soirée. C'est une magnifique bourgade entourée de montagnes multicolores. On se prend tous les quatre une chambre chez l'habitant. À ma grande surprise, mes compagnons expriment une grande joie en découvrant une bouilloire dans notre chambre. Je finis par comprendre le fort intérêt de mes amis pour cette bouilloire. C'est pour préparer le maté. Le maté est la boisson traditionnelle sud-américaine. C'est une plante que l'on infuse dans une calebasse et que l'on boit avec une paille en métal appelée bombicha. C'est une boisson stimulante qui améliore les capacités de concentration. La particularité du maté, c'est d'être bu à tour de rôle avec la même paille. Cette boisson typique d'Amérique du Sud me plaît immédiatement, malgré son goût amer. Après une bonne nuit de sommeil, Barbara, Sébastien, David et moi nous séparons. Je traverse alors le pays d'ouest en est en une cinquantaine de covoiturages spontanés. Un jour, je roule avec un homme qui s'appelle Jules César. Je peux vous garantir que ce Jules César n'avait jamais vu de Gaulois avant moi. Une autre fois, j'embarque avec des musiciens qui m'invitent à leur répétition. Je passe une demi-heure à les écouter jouer avant de repartir en levant le pouce. Je fais une étape à San Salvador de Jujuy, fondée à la fin du XVIe siècle par les Espagnols, sur la route drainant l'argent extrait des mines du Potosi. Je passe à Salta, la ville argentine qui a le mieux préservé son architecture coloniale. Je poursuis par San Miguel de Tucumán, où a été déclarée l'indépendance du pays en 1816. Mes pérégrinations m'amènent également à Córdoba, la deuxième plus grande ville du pays, ou encore Rosario, la ville natale de Che Guevara. En ville, je dors dans des auberges de jeunesse, et sur la route, je fais du camping sauvage, quand je ne suis pas invité directement chez des habitants solidaires. Un jour de forte humidité ambiante, arrivant dans un village peu avant la tombée de la nuit, je cherche une alternative au camping sauvage. J'entends de la musique et m'approche de l'habitation où une fête bat son plein. J'y rencontre Mariana. Elle m'explique que c'est l'anniversaire de son neveu. Amicalement, elle accepte que j'installe ma tente sous le porche d'une maisonnette qu'elle loue habituellement à des touristes. Grâce à elle, ma toile sera au sec. Après quoi, elle m'invite à la fête. Alors que je donne un coup de main pour ranger la salle après les festivités, Mariana me tend une paire de clés. Elle m'explique que je peux dormir dans la maisonnette, des touristes l'ont libérée ce matin. Je peux y passer la nuit au sec dans un bon lit. Je ne me fais pas plus prier et profite de son hospitalité bienvenue. À La Falda, peu avant Córdoba, je retrouve mon ami David rencontré 10 jours auparavant. Je suis invité à passer quelques jours chez lui avec sa famille. Je suis logé dans leur hôtel quasiment vide à cette période. À leur côté, je découvre la passion des Argentins pour la viande de bœuf et le barbecue à cuisson lente que l'on appelle l'asado. Un jour que je lève le pouce, je suis embarqué par 3 saltimbanques de mon âge. Rapidement, ils me proposent de les suivre dans la nature où ils construisent une habitation. Comme le courant passe très bien, je leur fais confiance. Je les suis après avoir laissé une partie de mes affaires dans leur camionnette abandonnée sur un parking. Pour rejoindre leur destination énigmatique, il faut prendre un petit bateau. On se retrouve en pleine jungle. Leur construction, loin d'être achevée, ressemble à une soucoupe volante. Tandis que certains travaillent, d'autres se baignent dans la rivière ou préparent le repas. On passe la soirée à écouter de la musique au coin du feu, au milieu de nulle part. Je m'endors avec un sentiment de gratitude. C'est un vrai privilège d'être invité aussi naturellement à intégrer une bande d'amis fraternels. À Santa Fe, je suis hébergé par Diego qui me fait découvrir le tereré. C'est une boisson à base de maté, mais au lieu de l'infuser avec de l'eau chaude, on le mélange à du jus d'orange. C'est à Santa Fe qu'a été écrite la constitution du pays en 1853 sur le modèle fédéral des USA. 20 ans plus tôt, Charles Darwin a fait une étape dans cette ville lors de son tour du monde. Je finis par arriver à Buenos Aires. Je suis logé chez Nicolas, le cousin de l'un de mes beaux-frères. C'est un musicien de talent. J'arrive au bon moment, le soir même, il donne un concert intimiste.
Antes que siga sirviendo, preste la copa, señor, que lo que vamos perdiendo ya nada en el vino que se derramó. Limpió el cristal y la mesa, y echa la gente después, muy despacito silbando, se va por la sombra para no volver. Están las aves del parque, pluma, carbón, violetas manos que nadan en el comedor. Pero emborracho dos cuerpos, cuentan pedazos de historia y yo bebiéndome lo que quedó. Saliendo de la botella, dos o tres formas de mí, cariati de milongueras, como pan y anís. Y se perdían en el pasillo del bar mientras mi abuela buscaba piojos de alta mar. Nada la perra que un día rescató de una pileta flotando como un caracol. Naufraga ya la distancia algún amor de la infancia y yo bebiéndome lo que quedó.
La capitale de l'Argentine est la ville la plus européenne d'Amérique latine. Elle a d'ailleurs accueilli de nombreux migrants européens dans l'entre-deux-guerres. Parmi eux, l'écrivain autrichien Stefan Zweig et le polonais Witold Gombrowicz. Tel un clin d'œil à Paris, je découvre un imposant obélisque de 67 mètres de haut. Sur les murs de la ville, je retrouve de nombreux portraits de Carlos Gardel, le fameux chanteur de tango. Né à Toulouse, le chanteur était surnommé Francesito, le petit français. Gardel est décédé à 44 ans dans un accident d'avion, mais son souvenir est immortel. D'ailleurs, depuis 2003, son œuvre et sa voix sont classées « Mémoire du monde » de l'UNESCO.
Dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos que la los ojos siempre mintiere tu amor.
Je passe Noël 2019 dans la capitale du pays. Il s'agit de mon premier réveillon en short, puisqu'il fait plus de 30 degrés. Le mois prochain, je vous emmène en road trip de Buenos Aires à Ushuaia, la ville la plus australe du monde. En attendant, portez-vous bien et levez le pouce.
Vous avez écouté Chronique d'un autostoppeur. Mon tour du monde en 15 fois 15 minutes. Émission de voyage présentée par Jérémy Fischer, écrivain biographe. Pour commander son livre Journal d'un autostoppeur sur les routes du monde ou prendre connaissance de ses services de conférencier ou d'accompagnement pour l'écriture de votre récit de vie, rendez-vous sur www.desracinesalapage.fr et sur sa page Facebook Des Racines à la Page. Retrouvez tous les épisodes de cette émission en réécoute sur radio-calade.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures.